Vous écoutez
RMC.
Puisque tu parles d'interview.
Oui.
Interview de Ryan Cherki dans SoFoot.
Ah, tout à l'heure, Génération After en a parlé.
Ah. Dans le prochain très longue interview. Ah. Il est sorti ce matin, je crois.
D'accord.
Je l'ai lu là, cet après-midi. Étonnant. C'est, alors, d'abord, c'est super intéressant qu'il ait donné. Pardon ?
Plancom ?
Plancom, c'est une vraie interview, quoi. Vraiment, non, mais dire, super intéressante en plus.
Il s'exprime peu, Cherki.
Non, mais
il a besoin de redorer un peu son image, quand même.
Oui,
pour ça,
mais
tu parles de Plancom.
Oui, mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de redorer l'image. Que son conseiller com, qui connaît bien les médias, Bilal, en l'occurrence, organise ça et trouve que c'est une bonne idée. Bah pour le coup, bravo, parce que c'est une bonne idée.
Il y a des bons plans com.
Exactement, exactement. Donc c'est une bonne idée.
Oui, mais quand tu dis plan com, en général, c'est péjoratif.
Oui, ça fait un peu péjoratif, alors que ça l'est pas du tout.
Disons que c'est un bon plan com.
C'est une très bonne idée d'avoir donné une interview longue où le gars a pu se poser et discuter. Et déjà, je trouve que le fait que ce soit en longueur, ça lui permet de vraiment parler de sa passion. Et en fait, l'interview, elle est très étonnante. Parce que c'est un gamin de 20 ans qui, dans une partie de l'interview, parle avec une nostalgie du foot d'avant et tout, et je me demande de quoi il parle. À 20 ans, parler de c'était mieux avant, le foot dans la rue, le ceci, cela, c'est un peu touchant, et en même temps, tu dis, mais Coco, t'as 20 ans, quoi. Il parle de Ronaldo, de Messi, toi, comme si c'était pour nous, pour quand on parle de Platini, et voilà. Et après, bah, tu lis l'interview, donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'il se livre complètement, donc déjà, en ça, ne serait-ce que pour ça, c'est intéressant. Et puis, il a une vraie réflexion, et plein de moments, t'es pas du tout d'accord avec lui. Et comme un gamin de 20 ans, t'as envie de poursuivre la conversation avec lui pour lui dire, tu devrais pas penser ça, tu devrais plutôt penser comme ça. Mais en plus, je pense que c'est quelqu'un qui est assez curieux. Comme nous a dit, je crois que t'étais pas là le soir où Johan Le Maire était avec nous.
Non, j'étais pas là.
Oui.
Il y a quelques années.
Et Johan Le Maire disait que quand il allait dans les clubs pour parler discrimination, il avait été surpris par Cherki parce que c'est un môme qu'à 20 ans, il vienne le voir pour parler avec lui et ouvrir un dialogue sur des choses. Donc déjà là, qu'un jeune comme ça fasse ça, c'est une bonne démarche. Et l'interview, ouais, t'es là, tu lis, tu dis, waouh, parfois t'es en décalé complet avec sa vision du foot et à d'autres moments. Mais ce qui est touchant, c'est qu'il se livre vraiment. Et voilà, c'est un joueur de 20 ans avec ses défauts sur sa vision du jeu, sur certaines choses même qu'on doit faire ou non sur un terrain. Mais c'est un mec qui est déterminé, qui a envie de bosser, qui a envie d'y arriver. Il veut sortir de cette image je garde trop le ballon, je suis un casse-couille sur le terrain, je ne joue pas pour le collectif. Il a envie de progresser. Je crois que Pierre Sage lui fera du bien pour qu'il progresse. Et j'ai été assez surpris du fond de cette interview pour un môme de 20 ans. Ouais.
Jimmy Brown, tout à l'heure, a fait son avis là-dessus en disant « intéressant, mais on voit tout de même les limites de Cherki », a dit Jimmy.
Oui, je comprends ce qu'il dit, mais en fait, voir les limites de quelqu'un, ça ne veut pas dire que ces limites sont éternelles. Ça ne veut pas dire que... Alors, si ces réflexions qu'il a aujourd'hui à 20 ans n'évoluent pas, oui, il sera limité. Mais comme c'est quelqu'un qui a l'air curieux de parler avec les gens, de progresser et de s'ouvrir, je pense qu'il va progresser et qu'il va gommer certains aspects de sa réflexion actuelle. Et ce sera mieux pour lui. C'est-à-dire, même nous, et on n'avait pas 20 ans quand on a démarré l'after, on a évolué dans pas mal d'idées. Et alors, si moi je repense à ce que j'étais à 20 ans et maintenant, je pense que j'ai quand même beaucoup changé. Donc il y a des changes que lui, il faut qu'il change sur un temps raccourci parce que c'est un joueur de foot. Donc avant 30 ans, la maturité des joueurs de foot, c'est-à-dire c'est assez touchant ce qu'il raconte de son enfance à l'adolescence. On oublie souvent que les joueurs font tellement de sacrifices pour accéder au haut niveau qu'ils ont une adolescence qui est complètement massacrée où en fait ils ne font quasiment rien d'autre, où ils sont braqués, ils ne pensent qu'à ça. Et il est très bon sur cet aspect-là.
Ça fait des années que
non, je savais que t'allais dire ça, je t'ai anticipé. Je savais que
Ça fait des années que je te le dis, ça. Qu'il faut être indulgent avec les ados. Ouais. Et que maintenant, les jeunes joueurs, ils sont ados jusqu'à 25 ans.
Non, mais c'est
25 ans d'adolescence, disent les pédopsychiatres.
Ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut pas dire que, parce que t'as eu une adolescence fracassée et tout, quand t'as 20, 22 ou 23 ans, que t'es un ado attardé, t'as le droit de te comporter mal. C'est pas ça que je dis. C'est-à-dire que je mets en avant le fait qu'ils ont une adolescence qui est perturbée parce qu'ils ne pensent qu'au sport, parce que pendant
parce que t'as l'impression sorte, de te faire virer,
ils ne sortent pas.
Alors que t'as 15 ans.
La façon dont ils parlent de la pression, les après-matchs où tu ne dors pas avant 5 heures du mat quand t'es joueur de haut niveau pour faire redescendre l'adrénaline, tout. Franchement, à 20 ans, il y a des réflexions chez lui qui sont très intéressantes. Maintenant, il y a plein de domaines où tu te dis, il faut que tu progresses parce que sinon, ça va être compliqué, quoi.
Bon. Là, tu nous as donné envie de Jimmy avant toi.
Je pense que j'ai
toi.
Fait une belle promo pour SoFoot, ils peuvent nous dire merci.
Très bien.
Pour acheter le numéro.
Ils sont sympas.
Avec l'interview. Oui, c'est des cousins depuis toujours.
Exactement. Alors, Luis Enrique. Les gars,
on encore, va aller... mais pourquoi en fait, pourquoi ça fait autant de bruit? Est-ce que les réseaux sociaux sont véritablement comment dire, illustrent véritablement
une blague?
Non, c'est pas une blague, parce que je me pose quand même la question, est-ce que vraiment ça
passe pas pour la question,
ce que je... ce qui fait du bruit sur les réseaux n'est pas toujours la vérité.
Bien ça, sûr, c'est quand même une photographie.
Oui, c'est une photographie.
Bon,
parfois trouble, flou.
Moi, je suis pas sûr.
Ça dépend du photographe, hein.
Non, c'est alors,
il y a des sujets quand même surprenants.
Bien sûr. C'est toujours la même histoire. C'est plutôt les gens pas contents qui vont aller sur les réseaux sociaux que les gens contents.
Oui.
La majorité silencieuse est plutôt en général plutôt satisfaite. Non, mais
déjà, quand tu prends les 10 sujets de discussion par jour en France, donc il y a au moins la moitié de sujets de foot. J'espère quand même que c'est pas ça la France. J'espère, mais peut-être que c'est ça la France.
Non, mais en ce moment, c'est vrai qu'il y a une belle fronde qui ne comprend pas ce que je raconte sur le sujet. Bon, on va en parler. Okay, maintenant, je les renvoie au passé. Je veux dire,
vous êtes mis dans le même panier tous les deux.
J'ai commencé sur le sujet à m'embrouiller. C'était tellement fort déjà à l'époque de Le Guen. Malheureusement, il se trouve que le temps me donne souvent raison. Donc, je veux bien continuer à débattre. C'est pas un problème. Peut-être un jour, j'aurai tort.
Bon, alors déjà,
peut-être pour les 30 ans de l'after.
On va démarrer.
Sur Le Guen, t'avais tort, Daniel, mais c'est pas le sujet du
sport. Non, je pense que les faits m'ont malheureusement donné raison. Malheureusement pour lui, comme pour Blanc, d'ailleurs.
Les gars, l'after a 18 ans ce soir, donc c'est, comme on dit, c'est l'âge de la maturité, même comme si l'adolescence dure encore 7 ans pour nous.
Comme pour Emery et comme pour Tuchel aussi. Si, c'est vrai. Tuchel était un grand entraîneur, il l'a été, je l'ai dit, il a été.
Sujet où tu t'es Emery était. En 18 ans.
Mais pas sur les entraîneurs. Pas sur le PSG. Pas sur le PSG, en tout cas. Ni sur les joueurs, ni sur les coachs. Mais bon. Les gens ont la mémoire courte, et puis il y en a peut-être qui viennent d'arriver depuis un an ou deux ans qui nous écoutent, hein, et qui trouvent que je suis prétentieux et machin, et si cela. Bon, bah écoute, j'y peux rien, moi, on va discuter. Hein.
Franck, bonsoir.
Salut les gars, comment ça va?
Ça va et toi?
Et happy birthday les gars.
Merci.
18 ans, ça se fête quand même. Hein.
Merci Franck.
Hein, le pire, c'est qu'on n'a pas prévu grand-chose en fait pour fêter ça, dis donc.
De quoi?
Mais le pire, c'est qu'on n'a pas prévu grand-chose pour fêter ça.
Eh ben écoute, justement, je fais un cadeau pour vous les gars ce soir. Ah. D'accord?
Ouais.
Bon, alors je commence par le côté perso, par le côté footeux, avec Luis Enrique.
Comme
on va déjà commencer par le côté perso. Daniel, on te kiffe, il faut que tu le saches, t'es un gourou, t'es tout ce que tu veux. On a nous créé un club, le FC Riolo, donc on se retrouve tous ensemble avec nos acolytes pour t'écouter, pour écouter tes belles paroles, tes belles analyses.
Mais il va y avoir un mec qui va tomber. Hein? Le mec va tomber.
Non, mais sans blague, t'as une vision du foot, nous, qui nous plaît, enfin, moi, qui te plaît, en tout cas, énormément depuis des années. Je suis d'accord avec toi sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais il y a vraiment un truc où là, on est tombé des nues et on comprend pas. Alors, je t'écoute, je suis pas borné comme garçon parce que j'essaie quand même de comprendre les choses, de comprendre ta vision des choses. J'essaie de comprendre. Mais je te jure, même à essayer de comprendre, entre parenthèses, vous m'avez quand même coûté deux mariages, les gars, parce que ma femme était du matin, le soir, c'était pas possible, je vous écoutais. Donc,
t'es sérieux là?
Il faut quand même que vous le sachiez. Mon fils s'appelle Daniel et il a son doudou qui s'appelle Gilbert. voilà. D'accord? Donc c'est pour ça que
c'est gros là, c'est trop.
Non, c'est vrai. Donc bon. De là où je voulais en venir, parce que c'est là qui est vachement important. Je t'ai écouté au sujet de Luis Enrique. J'ai écouté en large et en travers. J'ai écouté tes prises de position. Je ne comprends pas en fait. Moi je suis pas le PSG depuis 2012. Hein, ça fait déjà depuis 92-93. Donc j'ai vécu, on a mangé les couleuvres, on a vécu 30 ans de. Ce que je comprends pas, c'est en gros, je dis pas que t'as tort. Attention, c'est le pessimisme que tu as autour. Moi, je trouve que cette année, alors oui, il y a des joueurs, c'est un petit peu le bordel, ils jouent un petit peu pas trop à leur poste, on ne sait pas trop effectivement ce que fait Luis Enrique, ça c'est un fait. Mais ce que moi je vois dans une reconstruction, on a quand même 9 joueurs, neuf dans le 11 titulaire cette année par rapport à l'année dernière. Je pense qu'il faut quand même avoir un moment où on se dit, bon, il faut quand même qu'on construise une équipe. Et pour construire une équipe, une âme et quelque chose qui fonctionne, il faut que le magicien commence à faire sa tambouille. Tu comprends ce que je veux dire? Et de là, alors oui, on a eu le fameux milieu en début d'année qui nous plaisait à tous, Warren, Ugarte et Vitinha. Certes, ça fonctionnait bien. Maintenant, oui, ça fonctionne bien. Mais il faut aussi que j'essaye autre chose au cas où s'il y en a un qui est sur la touche. Donc, je vais essayer Fabien Ruiz, je vais essayer de Mekli, je vais essayer de... À la fin du compte, on se retrouve comment? On est au mois d'avril, on est le 4 si je ne me trompe pas. On est en finale de la Coupe de France. Champion de France, on y sera. On est en quart de finale. Être en quart de finale, c'est pas une fin en soi. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a 22 mecs qui sont au taquet. On a 22 mecs au niveau de la mentalité, que t'en sortes un, que t'en rentres un, tu perds pas trop au change comparé aux années d'avant. On en est même venu à se dire, sur certains matchs, bon, bah, si Kiki il sort à la 70e, on s'inquiète pas trop, derrière, ça va gérer. Il y aura Ousmane, il y aura Barcola, il y aura Colomani, enfin voilà, ça va gérer. Alors qu'avant, si Kylian y sortait, c'était la fin du monde et c'était. Je trouve qu'il y a eu quand même une comment on appelle ça. Le groupe a été géré. Je pense que Luis Enrique, sa grande particularité, c'est qu'il sait gérer un groupe pour l'amener au bout. Alors, je dis pas qu'on sera champion d'Europe. Je dis pas peut-être qu'on sera sortir contre le Barça, ce que j'espère pas, mais. Mais au moins, je pense que si on se fait sortir...
Tu veux dire, c'est qui le Barça, le club de cœur de notre entraîneur, c'est ça?
De quoi?
Le club de cœur de notre entraîneur.
Oui, mais on a tous un club de cœur de notre entraîneur.
Après, ah, ouais, d'accord.
Ça n'empêche pas de se battre pour le club.
Oui, ouais, mais d'accord, pareil, c'est juste pour savoir si c'est bien de ça dont on parle. C'est le club de cœur de notre entraîneur.
Oui, on parle de Luis Enrique, qui a une histoire à Barcelone, qui a peut-être sa maison, qui a son chien là-bas. Voilà, mais ça n'empêche pas de faire ce qu'il faut pour se battre pour le PSG. Il est payé par le PSG. Je pense qu'il prend son rôle à cœur. Il fait tout pour y arriver. Je pense qu'il a pris des décisions que personne n'a prises jusqu'à maintenant. Alors, peut-être qu'effectivement, il est appuyé par sa hiérarchie. C'est un fait. Mais, voilà, je trouve qu'il prend des décisions. Zut! Il prend des décisions que personne n'a prises. Il n'y en a pas un qui moufte. Tous ceux qui sont partis à la Fashion Week, c'est les joueurs qui sont partis ou qui sont sur la touche depuis déjà 10 ans. Donc, moi, je reste positif quand même. Il y a quelque chose qui ressort de cette équipe-là. Alors, quand on me dit que l'équipe n'a pas progressé, merde. Alors, footballistiquement, tactiquement, placement, peut-être que, mais on se calme. Ça fait 8 mois que l'équipe elle est neuve quand même. Il y a plein de joueurs qui sont neufs. Il y a plein de joueurs qui viennent d'arriver. Il y a plein de joueurs qui font. Je trouve que ce qu'il a fait, Luis Enrique, en 8 mois, mais c'est juste extraordinaire, en fait. Moi, c'est mon cas personnel, tu vois. Enfin, c'est ce que je pense. En t'écoutant, en essayant de
t'as amené des arguments. Maintenant, Stéphane et Daniel, est-ce que les arguments de Franck, selon vous, sont, vu tout ce que vous développez sur Luis Enrique depuis des semaines, sont recevables?
Je te laisse partir, Daniel, ou tu veux que j'y aille en premier? Moi, je suis pas foncièrement anti-Luis Enrique. Je ne suis pas pour l'instant, ça n'impressionne pas ce que je vois de ce que fait cet entraîneur-là. Voilà. Mais peut-être que ça va être le cas. Et moi, le point de contradiction fondamental que j'ai avec lui, c'est la gestion de Mbappé. S'il l'avait fait avant que la décision. Pour moi, c'est un entraîneur très politique, Luis Enrique, qui joue les rebelles, mais qui en fait est un.
Oui, parce qu'il a attendu
un petit caporal.
La décision du départ.
C'est tout, voilà, c'est tout.
Pour le sortir.
Moi, c'est le sujet central. Après, est-ce que ce PSG-là, est-ce que je vois, quand je vois le PSG, je vois une équipe qui m'impressionne, où je sens une force collective, je sens un projet de jeu qui avance, qui au fil des mois, non, je suis désolé. Encore le match d'hier contre Rennes, c'est des bons matchs, mais je veux dire.
Tu trouves aucune différence. Tu trouves aucune différence par rapport à l'année dernière.
Si tu prends, je pense pas que l'année dernière soit l'année baromètre dans l'histoire récente du Paris Saint-Germain. Si ça a été une année avec une Coupe du Monde entre temps, avec ce trio qui était ingérable, avec un entraîneur qui était aussi en difficulté. Je veux dire, évidemment, si tu me dis, est-ce que c'est mieux cette année que l'année dernière? Oui. Oui, oui, oui. Je te l'accorde. Est-ce qu'il y a beaucoup de mérite à Luis Enrique de cela? Non. Et de mon point de vue, mais il a sa part de qualité. Mais je rappelle moi simplement une chose. Ça m'embête de toujours revenir à ça, mais le PSG est surarmé. C'est-à-dire que Luis Enrique, il peut faire ce qu'il veut. Il a 10 fois le budget des autres. Donc, je veux dire, effectivement, s'il décide d'enlever Mbappé dans un match de Ligue 1, il prend zéro risque, puisque de toute façon, son équipe va le gagner, le match de Ligue 1 en question. Donc, on verra. La seule grille d'analyse réelle du Paris Saint-Germain avec ce niveau budgétaire-là, c'est la Ligue des Champions. Ligue des Champions, j'ai vu une phase de groupe extrêmement médiocre du Paris Saint-Germain. C'est une des phases de groupe les plus médiocres depuis que QSI est à Paris. Et en 8e de finale, bon, bah là, t'es béni du ciel, tu tombes sur la Real Sociedad. Donc voilà. Pour l'instant. Donc pour l'instant, voilà, je suis dans cet entre-deux-là. Et mon gros point de désaccord avec Luis Enrique, c'est la gestion du cas Mbappé.
Daniel, pour répondre à Franck.
Alors, Franck, il y a généralement, quand on est passionné de foot, d'abord, on est très subjectif quand il s'agit de parler de son club. Et souvent, je note qu'on a peu de mémoire. Or, moi, comme c'est mon métier, bah, j'entraîne ma mémoire. Et moi, j'oublie pas... je peux remonter à toutes les époques, mais on peut reparler simplement des 10 dernières années qui, on va dire, sont celles où tu arrives avec sans arrêt une ambition pour la Ligue des Champions. Donc déjà, quand tu me dis, sans remonter à il y a 10 ans, que je suis pessimiste pour cette année, tiens, c'est vraiment faux, puisque les premiers after de l'année, de cette saison, en septembre, justement, on me reprochait d'être trop optimiste. Quand je disais que l'état d'esprit avait changé, que j'adorais cette équipe, que j'adorais que tout le monde soit concerné, que ça nous changeait des deux, trois dernières années où j'ai hurlé, et souvent dans le désert, contre la mentalité de cette équipe, contre le fait d'avoir pris Messi, que tout le monde encensait, je me faisais insulter pour ça, contre le fait de dire ce que faisait Neymar, contre les joueurs, ils étaient deux notamment qui ne jouaient que 50% des matchs. Toutes ces années-là où j'ai été assez seul à dénoncer, puisque dans les autres médias, on se gargarisait du fait d'avoir des stars dans la Ligue 1. Et mon discours, au début de la saison, était très optimiste sur ce PSG, et il l'est encore aujourd'hui, Franck. Il l'est encore aujourd'hui. Je ne suis à aucun moment pessimiste, puisque je n'ai de cesse de répéter que j'aime ce que je vois de cette équipe, et je te dirai après ce que je ne vois pas. Et je crois que le problème, il est dans ce que je ne vois pas et dans ce que certains voient ou appellent génie et qui n'existe pas. Le contexte de l'année dernière ou de l'année encore d'avant fait que cette année, avec la fraîcheur et les nouveaux joueurs, on est beaucoup plus enthousiaste. Mais est-ce que tu te souviens qu'avant la Coupe du Monde au Qatar, il y a eu un début de saison où je t'invite à ressortir tous les articles qui étaient écrits par les médias et à réécouter tous les commentaires? Mais le PSG était encensé, le PSG de Christophe Galtier, défendu par pratiquement tous les médias français, parce que c'était un coach français. Tout le monde nous disait que le PSG jouait admirablement bien, en prenant l'exemple du 7-1 à Lille, et des autres matchs, le match contre la Juve, et notamment au Parc début septembre, avec la louche de Neymar pour Mbappé, même si après il y a eu des matchs en poule qui ont été nettement moins bons, je parle Benfica, ou c'était quoi l'équipe...
Les deux nuls, les Maccabi Haïfa.
Voilà, le Maccabi Haïfa, où c'était moins bien, mais peu importe, parce qu'on se prépare. Et nous, et moi, qu'est-ce que je disais personnellement? Oui, c'est pas mal, mais vous trompez pas, le tapis de course pour Messi et Neymar, dès que la Coupe du Monde va arriver, au lendemain de la Coupe du Monde, c'est terminé, il y a plus personne. Résultat, il y a plus personne. Voilà, ça c'est le contexte. Donc comme il y a plus personne et qu'il y a eu les 6 derniers mois absolument catastrophiques, tout ce qui est venu après, on l'a vu en positif. Et moi aussi, je le vois en positif, puisque je le répète, j'aime les joueurs qui sont là, parce que même si certains sont limités, ils donnent le maximum. Il y a des guerriers, l'état d'esprit à Marseille, c'est très bon. Tout ça, c'est très bon. Mais état d'esprit, et c'est déjà quelque chose qui est fantastique et qu'il faut mettre en avant, ça ne veut pas dire, et c'est ma seule opposition. En fait, il y a deux oppositions. C'est quand on me dit que tactiquement c'est fantastique, machin, que Luis Enrique est un génie. Ça, je dis que pour l'instant, je n'ai rien vu de ce genre, parce que tout ce qu'on voit, c'est exactement ce qu'on a vu depuis 10 ans. C'est-à-dire des entraîneurs qui arrivent avec des idées. Blanc avait une idée formidable. Et Dieu sait que je le défendais pas, parce que je savais que ça finirait comme ça, parce que les mecs allaient finir par lui chier dessus, parce qu'il n'était pas vraiment soutenu. Et ça s'est fini comme ça s'est fini, dans un choix tactique qui en plus n'était pas si horrible que ça, mais les joueurs n'ont pas voulu s'adapter à Manchester City, l'épisode Aurier, en fait tous ces épisodes-là. Mais lui aussi allait en quart de finale de Ligue des Champions, lui aussi faisait le doublé. Emery est arrivé, les joueurs ont été contre lui, mais c'est peut-être dans la première année, il y a eu des matchs comme on en a très peu vu dans l'histoire récente du PSG avec Unai Emery.
Le meilleur match, le meilleur match de l'histoire du Paris Saint-Germain, pour moi, hein, c'est le match aller PSG-Barça, le 4-0.
J'ai eu un match contre Monaco.
Je pense que j'ai jamais vu le PSG à ce niveau-là de son histoire.
Donc, tu vois, les tacticiens, les mecs qui ont mis des choses en place. Moi, perso, au PSG, quand on me dit il y a rien eu de mieux depuis des années, moi, je te parle, c'est un problème de mémoire. Et Tuchel, quand il arrive, retape-toi les 6 premiers mois, tu vas voir que c'est quand même quoi. Et bon an mal an, en bricolant parce que c'était un peu moins bien à la fin. Bon. T'as quand même vaincu le signe du huitième de finale. T'es allé en finale de Ligue des Champions. Pochettino, franchement, m'obliger à mettre son bilan en avant, vu comme je ne l'ai pas eu en haute estime, parce que je plaçais pas mal d'espoir en lui après ce qu'il avait fait à Tottenham, quand même, contre le Barça au Camp Nou, le 4-1, c'est lui qui est sur le banc et c'est un sacré match. Contre le Bayern, dans un style béton, et il s'est hissé en demi, des résultats, il y en a eu. Donc aujourd'hui, on dise que lui, c'est génial, lui, c'est ceci, cela, on m'explique des tactiques, machin, comme si j'y connaissais rien. Je vais pas donner la leçon, mais bon, je veux dire, j'ai écrit quand même 2-3 bouquins là-dessus, j'ai rencontré beaucoup de coachs sur, en Europe pour savoir de quoi on parle quand on parle de ça. Il paraît qu'il faut qu'on réponde.
Tu fais une réponse de 10 minutes.
C'est normal, il a parlé également longtemps, Franck.
Un peu moins que toi.
Puisque je vais pas aller là-dessus, mais je pourrais te parler de la tactique. En fait, tu me dis, il prend des décisions. Les décisions, ok. Mais encore une fois, moi, je suis pas anti lui. Je suis anti qu'on le gonfle alors que pour l'instant, on n'a rien vu. C'est le chef, c'est le patron, c'est cela. Ouais, Guardiola, c'est le patron à City. Ça fait 7 ans qu'il y est. Klopp, ça fait 10 ans qu'il est à Liverpool. C'est le patron. Moi, je lui dis, tu bosses bien, gars. Tu bosses bien. Mais t'es là depuis 6 mois. Tu dois encore tout me montrer. Et pour l'instant, ce que je vois, c'est que le jeu, il est pas dingo. C'est bien, l'état d'esprit, je suis très content, mais l'état d'esprit, c'est pas de la tactique. T'as concerné tout le monde, ok, très bien, c'est du management, ça n'est pas de la tactique, et le management, c'est très important. Et ça marche pour lui. Mais ce que je n'aime pas, et il y a un truc qui, moi, me fait péter un câble, mais vraiment, mais ça, c'est à titre perso. Je n'aime pas les menteurs, je n'aime pas le mensonge. C'est un truc qui me. Je n'arrive pas à composer avec ça. Le mensonge autour de... Parce que moi, j'ai aucun problème. Moi, cette année, reprenez les différents moments, les différents matchs. Mbappé, je l'ai beaucoup plus critiqué qu'on le pense. Après Newcastle, début de saison, pas début de saison, l'attitude à Monaco, j'ai dit que c'était lamentable. J'ai dit tout ça. Mais qu'on me fasse pas croire que d'un coup, ça a changé et qu'il a pris des décisions. Ça, non, c'est un mensonge. Du moment où il a annoncé... Je vous renvoie, puisque moi, on dit que je suis un extrémiste. L'édito de Vincent Duluc dans l'équipe est très bon à ce sujet. Du moment où il annonce... Derrière, il passe à moins de 70 minutes par match. Donc, c'est juste, j'aime pas qu'on me prenne pour un con. Et encore une fois, je ne dis rien sur sa com. Même si je ne l'aime pas, je m'en fous. Il a le droit de ne pas parler.
Parce que
il a le droit, même si, comme le dit souvent Gilbert, les médias sont quand même ceux qui mettent beaucoup d'argent dans la poche des joueurs de foot et c'est un peu et des entraîneurs, c'est un peu craché dans la soupe. Donc c'est pas une belle attitude. Et je pense que le PSG pourrait avoir un bon entraîneur et c'est un bon entraîneur, un mec qui respecte le public en parlant, comme le fait Franck Haise, comme le font plein d'entraîneurs, Gasset. Moi je veux bien parce que Gasset on va dire ça,
Guardiola
dans les confs, il explique. Il refuse les interviews en one to one, il les a refusés pendant des années, mais en conf, il explique son jeu. Bielsa expliquait tout, Sampaoli explique tout. Lui, il arrive, il t'envoie chier. Moi vous pouvez pas trouver que c'est normal. Je suis pas en fixette, je suis pas quelqu'un d'horrible, je suis pas quelqu'un de monstrueux quand je dis ça. Arrêtez de tourner ça en massacre, en disant il fait une fixette, il en peut plus, c'est le diable, Riolo, machin, ça. Mais je vous renvoie à toutes ces années, puisque ce soir, en fait, les 18 ans, j'analyse tout avec la plus grande des objectivités. C'est bien ce qu'il fait, mais ne nous emballons pas. On va jouer un quart de finale. Laissons-le passer, ce quart de finale. C'est pas gagné contre le Barça. Et j'ai le droit, moi, puisque, bon, tu sais Franck quand même que j'aime ce club. J'aime pas qu'un entraîneur vienne. Je trouve que à Marseille ça passerait pas. Et dans pas mal de clubs étrangers, un mec qui vient, il dit l'adversaire qu'on va affronter, c'est mon club de cœur. Et j'ai 5 joueurs qui peuvent jouer titulaires dans mon équipe. Ferme ta gueule. Non, le dis pas.
Là, tu sais
même
très
si
bien.
Tu le penses, le dis pas.
Moi,
ça me plaît pas. Ça me touche. Je dois être un vieux con.
J'aime pas mis la com dans le premier point de ma réponse à notre auditeur parce que. Si on va là-dedans, c'est horripilant. Là encore, ce week-end, quand il dit dans cette interview à Prime, Mbappé, je désespère pas qu'il reste. Non, mais là, il prend les.
Alors qu'il y a un moment, il te dit qu'on prépare l'avenir sans lui.
Voilà, non, mais c'est pour ça qu'à un moment donné.
C'est juste ça. Mais si c'était un homme politique, on en parlerait.
Restons sur le jeu et le terrain. Et on verra.
Mais je te répète, Franck, non seulement je suis optimiste parce que dès le début, j'ai dit que c'était peut-être une année où on irait loin en Ligue des Champions parce que l'état d'esprit qu'on a rarement eu. Là, il y est, même si on l'avait sous Tourelle, on l'avait quand on est éliminé d'Orléans en 8e.
Oui, mais c'est pas l'état d'esprit qui fait gagner des champions. Lens, ils ont l'état d'esprit irréprochable, ils l'ont
gagné. Non, mais c'est bien.
Dans un instant, Daouda veut également vous
interpeller. Mbappé contrat. Et il faut pas négliger ça non plus.
On se retrouve tout de suite au 32-16 pour continuer le débat.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.